Albert Bataille, cause criminelle et mondaine, de 1888, l'affaire Chambige, étude du procès, Constantine, 5 novembre. Les recueils judiciaires nous ont conservé les débats d'une cause retentissante de 1838, l'histoire de ce jeune médecin de marine épris d'une femme mariée et qui tenta de se suicider après qu'elle, après avoir lu Indiana. Alors, comme toujours et avec la même injustice, le ministère public s'en prenait des passions électernelles à la littérature de son temps. Monsieur l'avocat général Plougoulm, dans son réquisitoire, exprimait le regret pénible, public, que les temps fussent passés où il était permis de brûler en place de grève le roman de George Sand, dont s'était inspiré avant de mourir ses nouveaux amants de Montmorency, qui passèrent deux jours d'amour et d'harmonie, de chants et de baisers, de voix de livres unis, de regards confondus, de soupirs bienheureux. Le drame qui va se dérouler devant le jury de Constantine est encore plus romanesque et plus poignant. La situation sociale de l'accusé, Henri Chambige, celle de la victime, Madame Jay, femme de l'ingénieur des chemins de fer de l'Est algérien, les circonstances mystérieuses et soudaines de l'enlèvement, les suggestions hypothétiques précédant le viol et le meurtre, tout justifie les passions véhémentes qu'a soulevé cette affaire dans notre colonie algérienne et qui n'ont fait que s'accroître depuis le jour du drame de Sidi Mabrouk. Le 25 janvier dernier, vers 5 heures du soir, quatre détonations retentissaient presque coup sur coup dans une chambre de cette villa de Sidi Mabrouk. À une demi-heure de Constantine, demeure élégante et coquette de la famille Chambige, établie en Algérie depuis près de 30 ans. On enfonça les portes à coups de hache. Affaissés contre un canapé, les vêtements en désordre, rendant le sang par la bouche, tenant encore un revolver entre ses doigts roidis, Henri Chambige gisait, les joues percées de deux balles. Il s'était tiré deux coups de revolver au visage. En face du blessé, sur le lit, les cheveux dénoués, a obéi en modifiant le nom, un bouquet de violettes et de roses auprès d'elle, une freschia arabe recouvrant les deux jambes. Une jeune femme était couchée, la figure si sereine et si calme qu'on lui dit qu'elle venait de s'endormir. Un léger filet de sang filtrait à travers les draps. La tempe droite était traversée de deux balles. La mort avait été instantanée. Aucune trace de lutte dans la chambre. Une robe noire était soigneusement pliée sous les dredons. Sur la descente de lit, un corsage, un pantalon blanc de femme, un corset délacé et dégrafé. Plus loin, sur le canapé, à côté du corps d'Henri Chambige, une jupe brodée, nullement chiffonnée ni froissée, des jarretières, une feuille de papier bordée d'un filet de deuil, et sur laquelle était écrit « Je prie les miens de donner un très beau souvenir à mon ami Paul Rieux. Pardon, pardon, ma mère, embrassez les petits. » Signé Henri. Un chapeau de femme en feutre et velours orné de plumes noires était accroché à une patère auprès de sa fenêtre dont les volets étaient à demi fermés. Immédiatement au-dessous de cette fenêtre, assis sur son siège, n'ayant entendu aucun bruit de lutte jusqu'au moment où les quatre coups de revolver avait retenti, le cocher numéro 4, qui avait amené deux heures auparavant de Constantine à Sidi Mabrouk, Henri Chambige et Madame Jay, femme de l'ingénieur des chemins de fer de l'Est algérien. C'était elle, en effet, qui gisait là, morte sur le lit, uniquement vêtue de sa chemise relevée jusqu'à la poitrine. Quand j'aurai dit ce qu'était cette jeune femme, épouse irréprochable, mère dévouée, protestante, pratiquante et sévère, on jugera de la douleur et de la stupéfaction de tous. Sur le cadavre, nulle violence. Le bras droit était replié, les doigts effleurant presque le visage. Une tache de sang à l'annulaire droit donna à supposer que Madame Jay, comme on l'a soutenue depuis, avait assuré elle-même le revolver contre sa femme, tempe, pendant qu'Henri Chambige faisait feu deux fois. Le corps de Madame Jay était dans une position naturelle. Le médecin, qui souleva les paupières, fut seulement stupéfait du calme et de la paix et du regard. Ce n'était point là l'œil terrifié des suicidés. C'était comme l'expression bienheureuse, extatique, d'une magnétisée. Henri Chambige n'était pas mort. Peu à peu, sous l'action d'une médication énergique, le jeune homme reprenait son sens. Mais quand on voulut le transporter dans une autre pièce, il essaya d'arracher les appareils appliqués sur ses blessures et tournant un regard désespéré vers le lit où était étendue Madame Jay. « Hélène !» gémit-il. « Hélène !» Puis, d'une voix entrecoupée, il parlait sanglots. « Laissez-moi près d'elle, je l'ai tuée. C'est moi. Nous nous aimions. Nous ne pouvions pas partir ensemble. Elle m'avait fait promettre de la tuer d'abord. C'est elle qui a tenu l'arme. Nous avons voulu mourir dans un baiser. Et comme on l'emportait de force de la chambre funèbre, « Tuez-moi, achevez-moi. Hélène, Hélène !» s'écria-t-il encore en essayant de se cramponner aux tentures et en se tournant vers la morte pour la voir jusqu'au dernier moment. Et il supplia le maréchal des logis Arnaud de lui donner le coup de grâce. Pendant la soirée, il tenta de saisir l'instrument avec lequel le chirurgien sondait ses blessures. Son beau-frère, M. Gérin Rose, dut se précipiter sur lui et le lui arracher les mains et le désarmer. Henri Chambige est aujourd'hui guéri. Il va comparaître jeudi prochain devant les assises de Constantine. C'était un chercheur d'idéal, a dit un des témoins de la scène tragique que je viens de raconter. Sans doute les cercles d'étudiants de la rive gauche se souviennent de ce camarade à la voix séduisante et douce, aux yeux inquiétants, à l'allure mélancolique, auquel il donnait beaucoup plus que ses 20 ans, et qui déjà s'était fait une place dans les lettres en publiant dans la Revue Générale une étude de plus remarquée sur les Goncourt. La psychologie, l'analyse douloureuse du moi, absorbait entièrement cet esprit nourri d'Herbert Spencer et des jeunes maîtres du roman contemporain. Le soir, dans sa chambre de la rue Gay-Lussac, entouré de quelques intimes qui lui ont gardé une fidélité touchante, Henri Chambige lisait quelques pages de son livre, La dispersion infinitésimale du cœur, dans lequel il racontait les vaines recherches de son âme tourmentée. Une fatalité héréditaire semblait avoir marqué ce névrosé qui s'appelait lui-même une fin de famille. Son père, ancien notaire à Médéa, avait cherché dans le suicide un refuge, non contre la mauvaise fortune, mais contre le mal du monde, cette souffrance vague et inguérissable qui cause au pays de Schopenhauer tant de morts inexpliquées. Deux sœurs, tendrement aimées, avaient été emportées à leur tour, très jeunes, par un mal subi. Pour Henri Chambige, ces deuils répétés succédaient à une adolescence comprimée, à de longues années d'isolement volontaire dans le tumulte des collèges, à Bordeaux, à Oloron-Sainte-Marie, où sa famille lui avait fait poursuivre ses études. Partout il passa comme un écolier silencieux et incompris, replié sur lui-même, sujet à des crises de larmes, à des désespérances soudaines, dont il eût été bien embarrassé d'expliquer la cause. Au Quartier Latin, ce furent les mêmes accès inquiétants, coupés par de rares folies. Une demoiselle Paola, de celle qui verse la bière dans les brasseries du quartier Saint-Michel, l'animait parfois à la reconduire quand il était attardé jusqu'à la dernière minute, songeur et muet, derrière l'échafaudage des soucoupes. Le lendemain, elle-même reparaissait, soucieuse et attristée. « Mais qu'a donc ton ami ?» disait-elle à une des plus chers camarades d'Henri Cambridge, M. Noël Martin. « Il a passé la nuit à pleurer, il me suppliait de ne pas le quitter. » « Oh, il faut rester près de lui, » répondait Noël Martin. « Reste, ça le console. » « Mais on ne peut pas donc savoir de quoi il souffre ?» s'écriait-elle débitée. « C'est donc sacré, ce secret-là » À cette époque, Henri Chambiche ne connaissait pas encore Madame Jay. Il n'avait pas d'amour. Il ne souffrait que de la vie. De bonheur, il s'était accoutumé à analyser ses propres sentiments, à scruter son moi avec l'apparent désintéressement de lui-même, et nous allons parcourir quelques pages éloquentes qui sont l'histoire intime de son adolescence, aucune plus poignante que l'autobiographie de cette âme qui se sent passer des fictions du premier âge aux enthousiasmes religieux des années de première communion et qui oscille du mysticisme au doute jusqu'au jour de la revanche tardive du romanesque. « Il reste et restera dans tout ceci de l'inexplicable, » dit Henri Chambige au début de cette confession générale de sa vie. « Dans mon enfance, je me précipitais dans les récits merveilleux, avec une fougue véhémente, puis vint la folie de la croix. Je commiais plusieurs fois par semaine en baisant le Christ. Je sentais mon âme se fendre. Je fus dévoré, torturé, brûlé par des scrupules religieux. J'ai passé des nuits à remâcher des remords imaginaires. Le sujet de ces remords me ferait aujourd'hui sourire s'il m'avait fait tant pleurer. L'adolescence vint. Je disais des vers avec feu. Je passais des nuits à lire Hugo. Oh, à cette époque, j'étais vierge, je le restais très tard. Je lus prodigieusement, les procès surtout. Moi-même, je faisais de très mauvais vers avec de très beaux sentiments. Puis vint, avec l'adolescence, la crise douloureuse qu'Henri Chambige appelle sa révolution intérieure. J'étais alors au collège de Laurent-Sainte-Marie, j'avais 16 ans, et ce fut pendant les années 1883-1884. Il y a une crise par laquelle passent tous les jeunes gens. C'est la crise mélancolique de la puberté, sur laquelle se greffe toujours une crise morale. Chez moi, cette crise fut hors de toute proportion et presque uniquement intellectuelle. Tout me prédisposait à la ressentir plus violemment qu'un autre. Une absolue virginité d'âme, une éducation religieuse, mes lectures d'enfant, ma nature frémissante et chimérique. Ce fut du haut en bas de mon âme un écroulement au premier contact du monde réel qui me crachait à la face sa dérisoire disproportion avec mes chimères idéales. En moi, cette horrible invasion devait tout brûler, tout ravager. Croyance religieuse, croyance sentimentale, foi en moi-même, amour du Christ, tout s'effondra, tout s'arracha de moi. Et désormais, malgré la pauvre reconstruction qui fut opérée le temps, je devais porter en moi-même, vivant tombeau, le deuil ineffaçable de ma première âme. Henri Chambige, dont le second amour devait être si tragique et si sanglant, parle de son premier amour avec une sorte d'oubli attristé. Dans mon roman sur la dispersion infinitésimale du cœur, dit-il, j'ai parlé avec détail de mes premières expériences d'amour. Tout me dérouta, tout me choqua. Ce qui pour d'autres était vaudeville fut drame pour moi. C'était donc cela l'amour. Je l'avais rêvé, grand, exclusif, fidèle. Je le trouvais piètre, mesquin, versatile. Mes propres sentiments me parurent fragiles et rachitiques. J'en conclus que j'étais un être manqué, impuissant, une fin de famille. Que d'appels à la mort. La recherche d'aimer, sachant que l'on n'aimera plus, et avant la 20e année. Ce fut chez moi une idée fixe, et je recréais, au prix de quelles larmes, le système entier d'Héraclite. Tout coule. Pantareil. Ailleurs, Henri Chambly, je parle de son évolution religieuse et des pratiques d'extrême piété dans lesquelles son âme inquiète cherche vainement le repos, et tout lui était sujet d'anxiété. J'avais baisé la main de la jeune fille aimée. Était-ce péché mortel? Je roulais cette pensée des nuits encore. Je blâmais mes confesseurs de n'être pas pour moi aussi sévère que moi-même. Dès lors, j'eus moins de foi en l'Église, trop indulgente. Mais alors, où se prendre? Cette pensée me conduisit à la philosophie. Mes scrupules religieux m'amenèrent à agiter tous les problèmes. J'en vins au mysticisme universel. Ma seule intelligence avait dévoré en moi le charbon de ma volonté. Plus j'ai pensé, plus je me suis déséquilibré. Je m'affermis peu à peu dans l'éternel provisoire. Le scepticisme fut l'oubli de démolition qui frappa sans relâche la maison de mon âme jusqu'au jour où je fus traité comme Montaigne, Sainte-Beuve et Renan, un homme absolument impartial, ce que le public appelle avec une antipathie marquée un homme sans conviction. Voilà où m'avait conduit la recherche trop ardente de la vérité par une intelligence devant une foi. Le motif était noble, la peine est infinie. À résumer, Henri Chambly, je se croyait à 20 ans désabusé et désillusionné de tout. Avec moins de philosophie que de regret, il raillait l'amour qui lui préparait de si cruelles revanches. J'en étais arrivé, dit-il, à une convaincre, que l'amour traduit un certain nombre d'erreurs intellectuelles ordinairement appelées illusions. Celle que j'aime n'est pas si belle que je la vois. En croyant aimer une femme, on n'aime que l'erreur de mon propre esprit. Je juge à tort que la personne aimée est la non-pareille des poètes du Moyen-Âge. Ces injustices sont les efflorescences naturelles de l'amour. Il est arrivé un jour où, à force de sortir de moi-même, j'ai ramassé en un seul tous les grands problèmes de sentiment et où j'ai écrit « néant » à la place du cœur, comme il m'avait fallu écrire « néant » à la page de l'esprit. Quel jour que ce jour-là, le continuel transport de mon cœur dans tous les cœurs avait produit en moi un pêle-mêle anarchique. Tout m'était autre, même moi. Cet état d'esprit déplorable devait avoir son contre-coup physiologique. Une usure nerveuse aussi prodigieuse devait porter ses fruits. Henri Chambly tomba dans le marasme. Dès cette époque, dit-il, l'idée du suicide l'obséda constamment. J'avais peur de la folie, s'écrie-t-il. Un jour, je me sentis irrésistiblement porté à saisir un couteau placé sur un billot. Je dus m'enfuir. J'étais devenu un pathologique, un cérébral. Désormais, je devais passer ma vie à recueillir insensieusement moi et les autres, à combattre l'espérance, violant ainsi la seule condition du bonheur, qui veut que l'esprit soit dupe du cœur. Je lus avec une gloutonnerie prodigieuse. En une nuit, je lus toute la littérature anglaise de Taine. Ma pensée prenait un galop effréné. Je retrouvais dans les livres toutes les questions que seul j'avais agitées ou retournées sous toutes les faces. Spencer me stupéfia par sa grandeur. Je pleurais sur Obermann, sur René. Ces admirables études me présentaient un portrait plus exact d'une partie de mon âme. Elles en fixaient l'image dans mon cerveau fumant et désordonné. Mais le tremblement de terre de mon âme avait été trop fort. pour que la solidité puisse jamais s'y rétablir. Je n'eus jamais que de courts répits. C'est en vain que je bâtis le briquet sur mon cœur, comme dit Murgère. J'étais incapable de sentir, d'aimer. J'étais là. Henri Chambiche se trompait étrangement sur lui-même. Après cette crise douloureuse, la renaissance de l'idéal était proche. Et quand cette revanche naturelle de la jeunesse se manifesta chez lui à l'heure même où il se croyait devenu indifférent à tout, il accueillit comme une consolatrice l'illusion qui lui revenait. « J'en étais arrivé, s'écrie-t-il, à maudire ma recherche de la vérité qui m'avait donné si peu de bonheur. Et je me promis que si jamais je devenais père, je préserverais mes enfants de l'analyse. J'en vins à aimer le surnaturel. J'eus des visions d'arbres verts, de maisons de paysans. Je me pris à aimer les enfants immédiatement, signe de désillusion entassée dans l'âme, comme l'a dit Séard. Un son de mandoline, une nuit étoilée, faisait lever mes rêves. Plus encore que les femmes, j'aimais le mensonge. Dieu fit le monde, et en le voyant si laid, il donna à l'homme l'illusion. Les roses de notre esprit naissent du fumier de la vie. Ce que nous blasphémons sous le nom de mensonge, nous l'adorons sous le nom d'idéal. Ignorer, c'est être heureux, a dit Sophocle. Tel était l'état d'esprit d'Henri Chambige quand il connut Madame G. Henri Chambige avait alors 21 ans, elle 30. Un des amis de l'accusé a dit à l'instruction combien le jeune homme avait été frappé, vers cette époque, par le livre de Balzac, « La femme de 30 ans ». La rencontre eut lieu en 1886 à Constantine, où Chambige était venu passer quelques semaines de vacances dans la propriété de sa mère, remariée à un ancien officier, M. Ducampet. « La première fois que je la vis, dit Henri Chambige, ce fut à dîner chez elle avec ma sœur Élise, mon beau-frère Couverchel et Mademoiselle d'Egmont. Je vois encore cette journée. J'étais assis à gauche de Madame G. J'ai encore sous les yeux les figures ravies de ces deux petites filles, celle de Louise surtout, pleine de lumière. » Ces minois d'enfants me mettaient le cœur en joie. J'entendais aussi le rire si gai de ma sœur Lisette, et je voyais son petit corsage noir et blanc qui lui allait si bien et qu'elle devait si peu porter. Je causais avec Madame G, mais je ne me rappelle pas du tout ce que j'ai dit. Je fus frappé de ses yeux, entièrement baignés de lumière, comme si le blanc lui-même avait été un regard. Elle me montra des aquarelles d'elle, en se moquant avec une simplicité, une grâce un peu lente et si délicieuse. J'emportais l'impression d'un grand charme, mais ce jour n'avait pas marqué bien profondément dans mon âme. Elle vint me voir plus tard, après le mariage de ma sœur Lisette. C'était au printemps. Elle me fit conter des histoires. Nous étions couchés dans l'intimité des herbes et des fleurs plus hautes que nous. C'était des journées charmantes comme mal légées. Henri Chambige repartit pour la France après ces quelques semaines de bonheur paisible qui contrastaient si fort avec le désordre de ses pensées. Rentré dans sa chambre d'étudiant de la rue Gay-Lussac, le désespéré dut songer bien souvent à cette maison si accueillante et si calme. Il emportait de Madame G le souvenir reconnaissant et très doux. Sans doute, avec cette double vue des femmes, Madame G avait deviné qu'il souffrait. Il n'est point défendu de penser qu'elle dut lui adresser quelques paroles de consolation discrètes. Tous ceux qui ont gardé le souvenir de cet infortuné sont restés pénétrés de sa bonté infinie. Elle était née Helen Dixon, d'une famille conservatrice protestante où toutes les jeunes filles se distinguaient par un signe de race. On les appelle les demoiselles à la mèche blanche, à cause d'une mèche blanche qui tranche sur leurs cheveux bruns. Chez Madame G, ceci était moins apparent que chez ses sœurs, mais ses cheveux, dans l'ensemble, avaient prématurément blanchi. À 30 ans, les tempes s'étaient déjà rayées de fils d'argentés. Cette famille Dixon, riche et très considérée, est unie par le sang ou liée par une infimité héréditaire avec toutes les grandes familles protestantes où des mères irréprochables, des femmes entourées de respect, font aujourd'hui à la pauvre morte, par-delà la tombe, un rempart de leur témoignage. Hélène n'a pas tombé, elle n'a pas pu tomber. Nous la connaissions, d'avance nous jurons que cela n'est pas. C'est par ce cri unanime que protestent toutes celles qui ont connu Madame Gay, enfant ou jeune fille, et qui l'ont suivie encore après qu'elle fut devenue la femme de l'ingénieur principal des chemins de fer de l'Est algérien. À Constantine, Madame Gay fut entourée de la même sympathie, de la même vénération. Deux petites filles naquirent. Monsieur G, très galant homme, mari excellent, fonctionnaire d'avenir, adorait sa femme et ne lui donna jamais aucun sujet de peine. Henri Chambige, qui a dressé en quelques lignes le portrait de celui dont il a si cruellement brisé la vie, n'a pu reprocher à Monsieur G qu'un seul travers. C'est d'avoir sacrifié quelquefois à cette manie inoffensive des hommes de science qui consiste à railler les poètes. Chambige devait revoir la famille Jay au mois de juillet 1887. Un deuil cruel le rappelait en Algérie. Sa sœur Lise venait de mourir presque subitement. Madame Jay est toujours affectueuse et dévouée. Était venu prodiguer ses consolations à la mère d'Henri Charville. Elle faisait de longues visites, presque quotidiennes, à cette villa de Sidi Mabrouk, déjà comme aujourd'hui si morne. Avec une délicatesse toute féminine, elle se plaisait à remplacer, dans la direction de cette maison en deuil, la mère de famille plongée dans son chagrin. Inconsolable elle-même de la mort d'un petit garçon, cette âme exquise se sentait liée à la famille, quand j'y par la communauté de la douleur. « Je la revis à travers mes larmes, » dit Henri Chambige, dans une page attendrie. « Je la remerciais, ma Lise que j'avais tant aimée, qui m'avait fait faire ce rêve d'infinie tendresse, de renouveler entre nous l'amitié de Maurice, et de génie de Guérin. Oh, je la vois encore, pendant une excursion dans nos belles Pyrénées, longeant avec moi les haies fleuries, souriant malicieusement, en soulevant les branches des fourrés, moi devant pour la protéger et tenir le bout de sa main. Hélène, Madame Jay, avait été son amie. Elle était assise sur la marge du salon, écoutant l'écho de mes sanglots. Elle revint vers moi pour pleurer. Nous parlâmes longuement de Lise. Je lui contai toute l'originalité de son esprit, l'infinie délicatesse de son cœur. Et je ne sais pourquoi, je la faisais entrer dans le plus intime de mon âme. Elle écoutait, silencieuse et ravie. C'est par cette confidence que nos âmes se sont pénétrées pour la première fois. La poésie de la douleur l'a amenée à penser à moi, à m'aimer. Et de là, oh mon Dieu, pauvre ami, un sentiment indéfinissable, d'affection profonde et maternelle, de la part de Madame Jay, de reconnaissance émue de la part d'Henri Chambige, rapprocha le désespéré de cette jeune femme pour laquelle la vie avait été si douce et si uniforme. Avec sa grande bonté, Madame Jay dut regarder comme un devoir de consoler le pauvre malade. Après avoir parlé de la sœur morte, de l'ami disparu et sur laquelle s'unissaient leurs communs regrets, ils en arrivèrent. Le jeune homme, et elle l'a écouté, lui a confié ses rêveries, ses inutiles recherches, sa lassitude de tant d'années passées dans la vaine poursuite du bonheur. Dès lors, dit Henri Chambige, chaque fois qu'à table ou ailleurs, il se disait ou se faisait quelque chose, nous entendions du regard, comme si nous pouvions nous passer de cette perpétuelle confidence de nos âmes. Jusqu'au jour où la passion se glissa dans cette atmosphère imprégnée de larmes, que de nuances infiniment petites, fugitives, effarouchées, que d'effleurements d'un bout à l'aile du vent de l'aile, que d'imperceptibles timidités. Je ne la croyais que triste, elle était déjà tendre. Elle se plaisait à regarder avec moi, le soir, Constantine couchée dans les choses vagues et blondes, vapeurs éclairées par la lune. Il y avait chez nous une gazelle familière qui entrait partout, quêtant des caresses et du pain. Caressions sur la bête qui nous regardait l'un et l'autre avec de grands yeux mystérieux. Nos mains ne se rencontraient pas, mais elles auraient pu se rencontrer. Cela nous suffisait. Nous parlions de Lise. Hélène parlait de son petit enfant mort. Dire que ce sont ces choses saintes qui nous ont conduits là. Tous les soirs, je lui apportais des roses de thé, à cheval dans le Sidi Malbrook ou de Constantine. Elle faisait ma vie, ces roses. Avant de les cueillir, je les regardais. Elle les mettait toujours à la place d'honneur, au salon. Un soir, chez eux, un brusque sanglot entr'ouvrit le torrent de mes larmes. Elle me mit la main sur l'épaule, me consola. Je pleurais comme un enfant. Alors elle ne voulut plus me laisser tout seul. « Venez avec nous, chez nous, » dit-elle. Plus elle me voyait souffrir, plus elle m'aimait. Elle prenait la tendresse qu'elle éprouvait déjà pour cet amollissement du cœur que donne la pitié, une pitié de femme et d'amis. Sa causerie lente, douce et comme involontaire semblait du rêve parlé. Pour moi, analyste et réfléchi, qui croyait ne plus devoir rêver jamais, ce fut comme un recommencement de la vie. Mon premier amour avait été réellement mon secours, amour par l'analyse et l'inquiétude. Et ce second amour dépassa le premier par l'innocence et la fraîcheur. C'était entre nous comme une perpétuelle déclaration d'amour sous-entendue. Quand nous étions seuls, en face l'un de l'autre, nous nous trouvions mal à l'aise. Nous aimions mieux la compagnie de mes petites sœurs, qui nous permettaient de nous adorer sans rien dire. Édouard Rode, dans sa course à la mort, a dit la même chose en forme exquise. Et nous écoutons, sourds en nous-mêmes, ces vaines pensées qui se perdent bien avant que nous les ayons formulées, en sorte que nos causeries continuent à travers nos silences avec une intimité plus profonde. Et moi qui raisonne, sais-je où mon cœur même aurait pu ajouter Henri Chambige avec le héros du livre. Nous approchons du drame. Voici l'automne de 1887. L'intimité s'accroît encore, s'il est possible. Henri Chambige, du moins, l'a prétendu, car aucune des amies de Madame Jay ne s'est jamais aperçue que la jeune femme prit souci de celui que chacun regardait comme un détraqué. Quant à Monsieur Jay, il voit encore Henri Chambige debout devant la cheminée, développant avec prétention des paradoxes qui fatiguaient tout le monde et qui ennuyaient prodigieusement sa femme. « Ce jeune homme m'observe et m'énerve, » disait-elle à une amie. C'est à cette époque que l'accusé rapporte une série de petits incidents qui, d'après lui, accroissaient de jour en jour leur intimité. Un jour, il lui a donné les deux premières violettes de son jardin. Elle en a mis une à son corsage en lui rendant la seconde. Un autre jour, ils se sont promenés à cheval sous les pins, très doucement. Elle lui racontait des choses de sa vie de jeune fille. « Elle avait voulu adoucir ma peine, » dit Henri Chambiche. Et un jour vint où elle me dit « Je ne sais pas ce qui m'intéresserait en toi. Je t'aimais. » Je lui dis un jour que je me sentais détraqué, que je me faisais peur à moi-même. Alors elle me dit tout ce qu'un cœur de femme peut trouver, m'engageant à laisser là mes livres, à vivre auprès d'une vie heureuse et simple, avec mes amis. Une fois, ma sœur André dit devant moi, « Oh, je la plains, la femme, si tu te maries. » « Eh bien non, » répondit Hélène, « non, non, moi je ne la plains plus. » J'étais très fier de cet amour, de n'être pas un raté du cœur. L'idée de la possession ne m'effleurait même pas. Je voyais dans ce sentiment je ne sais quoi de divin. Je l'aimais d'un amour prosterné. Je l'aurais presque prié comme la Vierge de mon enfance. Cependant, Henri Chambiche comprenait, dit-il, que l'heure était venue de s'arracher à cette passion. On était au mois d'octobre 1887. Ses camarades de l'université le rappelaient à Paris par des lettres affectueuses. Ils ne pouvaient pas comprendre ce long séjour en Algérie. Il semble que le jeune homme ait eu à ce moment-là la volonté énergique de laisser inachevé ce roman qui devait se dénouer trois mois plus tard d'une façon si tragique et si mystérieuse. « Je partirai, » dit Werther. « Je te remercie, mon ami, d'avoir fixé ma résolution en chancelante. Voilà 15 jours que je médite le projet de la quitter. » Marie Chambige était lui aussi déterminé à s'éloigner de Madame Jay. Il croyait l'être, du moins, car les journées s'écoulaient sans qu'il en trouvât la force. Cependant, la jeune femme, dit-il, le conjurait elle-même de quitter l'Algérie. « Je vous en supplie, partez !» suppliait-elle. « Jusqu'à ce moment, j'avais cru que nous nous aimions d'une façon toute innocente. Elle était si profondément honnête que, forcée de s'avouer franchement qu'elle m'aimait, elle a lutté tant qu'elle a pu. Elle voulait que son mari se mît entre elle et moi. « Je vais tout lui dire !» s'écriait-elle. « Bon, si elle ne l'a pas fait, c'est que je l'en ai dissuadé. Je lui disais qu'il n'y avait rien eu de grave entre nous, et qu'avec le temps, l'amour propre d'un mari finit par faire douter des choses les plus claires, tandis qu'un aveu catégorique ne lui laisserait pas cette ressource. Et le 17 octobre, je l'embrassai pour la première fois devant sa porte. « Je ne suis plus comme autrefois, » me dit-elle. « Je ne pense plus du tout le temps à mes enfants. Je ne pense qu'à toi. C'est horrible. » Je lui écrivis une lettre dans laquelle je lui demandais pardon à genoux. Je lui dis que je partais, que je l'aimais tendrement, que j'étais un détraqué, que je craignais d'en m'arriver à provoquer son mari si je le rencontrais. « Je me tuerai si tu pars, » me répondit-elle. Je deviens une misérable, mais c'est pour toi, ça rachète tout. » Dans la conversation, nous commencions à parler de choses sinistres. Un jour, j'eus chez elle une nouvelle syncope. Elle m'embrassa plusieurs fois. « C'est affreux, » dit-elle, « c'est à cause de moi. Oh, j'aurais dû ne pas me faire aimer. » Et en face de Jay, un Hercule, elle m'a aimé, parce que j'étais un faible très doux. Elle me donna sa photographie et quelques cheveux. Par une sorte de coquetterie, elle les choisissait parmi les plus blancs. « Tu me trouves vieille, » disait-elle en souriant. « Tu te moques de moi. » Et elle ajoutait, « Mais comment mon mari ne nous tue-t-il pas? Henri Chambidge arriva le 20 octobre à Paris. Ses amis le retrouvèrent rue Gay-Lussac. Il leur parut las, découragé, malade. Il était parti pour l'Algérie en annonçant son intention de travailler beaucoup, de rapporter un roman, des nouvelles, et il revenait les mains vides et Paris ne lui rendit pas le courage qu'il avait perdu. « J'aime une femme mariée, » dit-il avec la mélancolie de Dominique, un de ses intimes qui l'interrogeait sur d'incompréhensibles crises de larmes. Un matin, il disparut et alla cacher son chagrin, entretenu par la tristesse de l'automne au fond de la forêt de Fontainebleau. Il y passa 2 jours à errer comme un fou, à penser au bonheur qu'il aurait eu s'il avait rencontré jeune fille. « À chaque instant, dit-il, je tirais de mon portefeuille la petite photographie qu'elle m'avait donnée. Je la glissais dans les éclats d'un tronc d'arbre. Étendu sur les feuilles mortes, je restais des heures à la contempler. Puis il écrivait à Constantine, demandant anxieusement à des nouvelles à tous ceux qui approchaient de Madame Jay. Inquiet, impatient du retour. C'est à cette période qu'Henri Chambige rapporte les lettres de Madame Jay dont nous allons parler plus loin. Vers la mi-janvier, une maladie grave de sa mère le rappela en Algérie. Il y devait rester peu de jours. Les inquiétudes étaient heureusement vaines, le mal avait excédé promptement. Il devait aller s'embarquer le 23 janvier à Philippeville. Il semblait déterminé à partir, mais il attachait déjà à ce mot « partir » le double sens terrible des dernières lettres de Werther. Henri Chambige était décidé à partir de la vie. Que s'est-il passé pendant cette mystérieuse et tragique journée du 25 janvier, qui fut la dernière? Monsieur Jay était parti le matin en tournée d'inspection. Chambige l'avait retrouvé à la gare, mais là, par un revirement subit, il avait déclaré à l'ingénieur qu'il ajournait son départ et il était rentré rapidement dans la ville. Déjà avant le jour, il s'était introduit dans le jardin de Madame Jay pour cueillir un bouquet de violettes et de roses. Il voulut, dit-il, la revoir encore, lui parler une dernière fois de son départ. Voici en quels termes l'accusé a raconté cette visite inattendue. « Je ne veux pas que tu partes, » s'écria-t-elle. Me venant entrer dans sa salle à manger, elle éclata en sanglots. « Mais partons ensemble, » fit-elle. « Oh, si j'étais jeune !»« Bon, il faut que cela finisse, je ne puis plus supporter cette vie-là. » Je me suis précipité à ses genoux en la remerciant. J'étais ivre de joie. Henri Chambige passa une partie de l'après-midi à chercher de l'argent chez tous ses amis de Constantine. Il fallait absolument 10 000 francs, disait-il, ou bien il se verrait sauter la cervelle. Son ami Paul Rieu l'accompagna chez plusieurs banquiers israélites qui, représentant la rareté de l'argent et le manque de garantie, refusèrent d'ouvrir leur caisse. Chambige entra alors chez un armurier, acheta un revolver et des balles, et après de nouvelles et inutiles visites aux banquiers, se fit conduire une dernière fois chez Madame Jay. La jeune femme avait passé la journée de la façon la plus paisible. Elle avait proposé une promenade en voiture à une amie qui passait, et sur son refus, elle était sortie seule jusque vers 2 heures. Au moment où Chambige reparut, elle venait d'envoyer ses 2 petites filles jouer sous les pins, et elle achevait une lettre à une parente. Lettre enjouée et pleine de détails sur sa maison. Ni son maintien, ni son visage, ni sa voix ne révélaient le moindre souci. Le fiacre qui avait amené l'accusé n'attendit que peu de minutes à la porte de Madame Jay. La jeune femme parut bientôt, suivie d'Henri Chambige. Elle avait à peine pris le temps de mettre un chapeau et de jeter un mantelet sur ses épaules. L'accusé, seul témoin et qu'aucune contradiction ne menace, a placé ici un dernier entretien coupé de larmes et de sanglots. Je lui avais dit que j'étais décidé à partir, écrit Henri Chambige, mais que je n'avais pas pu trouver l'argent nécessaire et que j'étais décidé à partir seul. « Je comprends ce que tu vas faire, » s'écria-t-elle. « Allons-nous tuer tous les deux ?» Je l'embrassai tendrement. Ils montèrent en voiture. Henri Chambige ordonna au cocher de les conduire à sa villa de Sidi Mabrouk. « Pendant le voyage, dit-il, nous fûmes très gais tous les deux. » Je ne pus m'empêcher de chanter la romance de Faust. « Salut, mon dernier matin !» Avec cette différence, « que c'est le soir » interrompis-je. Puis elle me fit ses recommandations dernières. « Tu me tueras, et tu te tueras après. Tu es l'homme, tu dois avoir le plus de courage. Je veux que tu me promettes sur la tête de ta mère que tu me tueras. » Ils arrivèrent au bout d'une demi-heure à la villa de Sidi Mabrouk, et Henri Chambige prévint le cocher qu'il aurait sans doute longtemps à attendre, et monta tranquillement le perron suivi de Madame Jay, dont l'attitude parut au cocher Luciani absolument indifférente et naturelle. Chambige ferma à double tour la porte du perron et monta avec Madame Jay au premier étage, dans sa chambre, dont il ferma également la porte à clé. Le cocher attendait sous la fenêtre de cette même chambre, dont les volets étaient restés entr'ouverts, et pendant près de 2 heures, il n'entendit aucun bruit. Le mystère le plus impénétrable enveloppe cette dernière partie du drame. Les débats nous apprendront peut-être si Madame G, qui de l'aveu de l'accusé n'avait jamais été sa maîtresse jusqu'alors, s'est volontairement donné à lui ce jour-là, ou s'il a indignement abusé à plusieurs reprises d'une hypnotisée, sinon d'une morte. Quant à lui, il affirme que Madame Jay a voulu mourir avec lui pour ne point survivre à cette faute suprême. « Je lui avais dit souvent, écrit-il, qu'on admirait les amants d'Alfred de Vigny qui étaient morts ensemble, et que ce serait d'une grande beauté de mourir comme cela. » On nous admirerait, et nous en arrivâmes à considérer notre mort comme divinisée par notre passion même. La seule chose qui me désole, disait-elle, c'est le déshonneur. Mais on nous admirera, m'écriai-je encore. Avant de mourir, elle me dit très doucement, « Je me sens heureuse et malheureuse à la fois, je t'aime. » Elle m'a dit des choses délicieuses. Je voulus descendre chercher des fleurs. « Non, non, fit-elle, tue-moi la première, partons. Oh, tu vas me faire souffrir, comme tu trembles. Donne-moi un dernier baiser. » Elle appuya elle-même le revolver contre sa tempe. J'ai tiré, et comme elle faisait encore un léger mouvement des lèvres, j'ai retiré. La jeune femme, immobile et morte, Henri Chambige, s'assit sur le canapé et se tira 2 coups de revolver dans la face. Cependant, plusieurs amis, témoins de son exaltation de l'après-midi, et redoutant un malheur, s'étaient rendus à la villa de Sidi Mabrouk. Quand ils arrivèrent, Madame Jay vivait. 2 heures devaient se passer jusqu'au coup de revolver. Et pendant ces 2 heures, les camarades de l'accusé arpentèrent indécis les allées du jardin, n'osant entrer, disent-ils, parce que le cocher Luciani leur avait appris qu'Henri Chambige était enfermé avec une dame. Quand ils se décidèrent à faire enfoncer les portes après avoir entendu les coups de feu, tout était fini. C'est l'un des points les plus mystérieux du procès. La longue instruction, qui vient à peine de se clore après 10 mois, n'a point calmé l'exaltation d'Henri Chambige. « Oh, ma mère, s'écrie-t-il dans une lettre, pourquoi m'avoir donné des nerfs de femme? Vivre et voir 3 familles plongées dans la honte à cause de moi, que je me hais !» Dans une autre lettre plus récente, « Pauvre chère, où est-elle maintenant? Lui a-t-on enlevé les fleurs qu'elle m'avait voulu tenir dans ses mains ?» quand elle serait morte. Avant de mourir, elle m'avait dit « Je veux ma fleur ». Elle l'a prise de ma main. « Oh, pardon, pardon. Que ne puis-je aller lui demander pardon sur sa tombe ? » N'est-ce pas que c'est un vol que je lui fais de ne pas mourir comme elle, de lui fausser compagnie en restant vivant ? Elle m'avait fait promettre de l'embrasser après. Ils n'ont pas voulu. Cependant, Richambige a été soutenu dans sa prison par l'amitié unanime et fidèle de ses anciens camarades de Paris. Si à Constantine les esprits sont à ce point montés contre le meurtrier de Madame Jay, qu'un journal a pu demander contre lui des supplices nouveaux, il s'est fait dans la jeunesse des écoles une sorte de mouvement d'enthousiasme autour de ce romanesque qui a joué au naturel les drames racontés dans les livres. L'accusé a été consolé presque quotidiennement par des lettres qui seront lues à l'audience et qui ne sont pas les pièces les moins curieuses du procès. Mais ce n'est pas de ces lettres que je veux parler avant de terminer le récit de cette cause célèbre. Il en est d'autres bien autrement importantes, les prétendues lettres de Madame Jay. Et c'est ici que l'affaire revêt un aspect inattendu. Richambige a laissé entendre que pendant son dernier séjour à Paris, du 15 octobre au mois de janvier dernier, Madame Jay avait correspondu avec lui. Un de ses amis, M. Gauthier, agrégé à la bibliothèque de l'Arsenal, avait remis en effet à l'instruction, en même temps qu'une boucle de cheveux blancs, quelques lettres et un télégramme qu'un autre camarade d'Henri Chambige, M. Noël Martin, avait reçu lui-même en dépôt avant le dernier départ de Chambige pour l'Algérie. Au premier abord, cette correspondance semblait malheureusement faire la lumière complète sur le drame. Voici une première lettre. Monsieur Chambige, rue Gay-Lussac, Paris. Suis désespéré, impossible de vous écrire. Donnez quelques nouvelles. Je n'ai rien dit. Ne soyez plus malheureux. Vous brûlez lettre. Sans signature. Suite une dépêche. Constantine pour Paris. Chambige chez Noël Martin, 32 rue Gay-Lussac, Paris. Ne m'en voulez pas. Écrirai plus tard. Trop triste. Donnez nouvelles. Signé Hélène. Adresse de l'expéditeur, Dixon, route de Mansoura. Ensuite, un court billet. C'est une partie de celle que tu m'as donnée, tu sais, dans le plateau. Je les ai bien embrassées. Et une dernière lettre. Non, non, ne t'en va pas. Pense à moi. Que vais-je devenir ? Ne plus te voir, mais je suis folle, je t'aime plus que tout au monde. Prends-moi donc, je suis tout à toi, ne doute pas de mon amour, tu me fais mal. Ces lettres sont-elles de Madame Jay ? Elles ont été examinées par des professeurs du lycée de Constantine, choisis comme experts. Pour eux, le doute n'est pas possible, l'écriture est contrefaite, les lettres ont été fabriquées. Voici donc que cette constatation de l'expertise se retourne terriblement contre Henri Chambige. Si les lettres de Mme Jay sont fausses, il ne s'agit plus du dénouement tragique d'un drame d'amour d'une malheureuse femme conquise par la pitié, mais d'un abominable guet-apens combiné de longues mains avec toutes les précautions imaginables pour tromper la justice et couvrir de honte la mémoire d'une femme irréprochable. Les amis de Madame Jay, son mari, une grande partie de la population de Constantine, sont unanimes à dire que jamais la malheureuse femme n'a éprouvé le moindre sentiment pour celui qu'elle regardait comme un détraqué et dont la vue seule l'obsédait, a dit un témoin. Les intimes de la maison affirment que Madame Jay ne voyait Chambige qu'en présence de son mari et de ses enfants. Au début, le bruit avait couru que le jeune homme l'avait attiré sans peine à la suite d'un odieux pari dans cette villa de Sidi Mabrouk, Donc, comme on l'a vu, Madame Gène était occupée en maîtresse de maison depuis les deuils qui avaient éprouvé si cruellement la famille Chambidge. Personne ne peut se représenter cette jeune femme interrompant une lettre insouciante pour aller se tuer. Cette mère en voyant jouer ses enfants sous les pins, sans même leur donner le baiser d'adieu. Quelques témoins rappellent un étrange propos qu'aurait tenu Chambige. Je voudrais me donner les sensations d'un assassin pour les analyser. Et comme le cadavre de la pauvre femme ne porte aucune violence, comme l'autopsie n'a révélé aucune trace de poison, Chambige, dans la journée, avait vraiment demandé à un pharmacien du laudanum. Il faut bien en revenir à la mystérieuse hypothèse de la suggestion. On sait combien le médecin avait été frappé dès le premier moment de l'œil calme, reposé de la pauvre morte. Jamais il n'avait vu un tel regard au suicidé. Le docteur Ingley, qui examina à son tour Madame Jay, estime que l'hypothèse d'un état cataleptique au moment de la mort n'est pas inadmissible. Monsieur Jay et d'autres témoins ont fait connaître que la jeune femme, surtout depuis qu'elle avait perdu un enfant, s'occupait quelquefois d'hypnotisme. Elle en serait arrivée à s'endormir tout à coup, sous l'influence de forces inconnues. Chambidge la fascinait. Elle ne pouvait soutenir l'éclat de ses yeux, a dit quelqu'un. Enfin, je vais donc pouvoir me ressaisir, soupirait-elle en apprenant son départ. Monsieur Jay ajoute que sa femme disait avec avidité d'être traitée de suggestion. Elle souffrait d'un ébranlement nerveux depuis des représentations d'hypnotisme données par une troupe arabe. Des traités d'hypnotisme auraient été saisis de même chez Henri Chambige. Enfin, Madame Jay pouvait fuir si elle l'avait voulu. Elle avait 2 000 francs dans son secrétaire, et tandis qu'elle n'a point fait le moindre préparatif de départ. On a retrouvé ses vêtements, son linge soigneusement rangé dans des armoires. Toutes ces remarques ont amené une grande partie de la population de Constantine à cette conviction qu'après avoir attiré Madame Jay dans sa maison, Henri Chambidge l'a endormie dans sa chambre, qu'il l'a tuée, qu'il a indignement abusé d'elle après la mort, puis qu'il l'a déshabillée maladroitement, fiévreusement, obligé par la raideur cataleptique de délacer le corset par derrière. Les sceptiques font observer en outre qu'il n'a pas manqué Madame Jay, mais qu'il s'est manqué lui, et qu'on ne se tire pas 2 coups de revolver dans les joues quand on est bien décidé à en finir avec la vie. Les audiences qui vont s'ouvrir jeudi prochain devant la cour d'assises de Constantine feront-elles la lumière sur ce drame effroyable? La famille de Madame Jay l'espère. Elle a toujours eu cette confiance que les débats publics qu'elle appelle de tous ses voeux feraient ressortir d'une façon éclatante l'innocence de la pauvre morte. Cette cause célèbre occupera au moins 3 audiences. Elles seront présidées par M. Zille des Îles, conseiller à la cour d'Alger. M. le procureur général Maillet soutiendra en personne l'accusation. M. Trarieux, maître Trarieux, sénateur de la Gironde, défendra devant la justice la mémoire de Madame Jay, au nom de ses enfants, de son mari, partie civile, de toutes celles qui l'ont connue, jeune fille, épouse et mère, et qui pensent qu'elle est morte après avoir été assassinée lâchement. Maître Durier, bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour de Paris, vient défendre Henri Chambige devant les jurés algériens.